de toutes les classes différentes s'empare de la totalité du de la enfin de voilà de la mise en place et de pour arriver à la réalisation du projet. Donc que ce soit le financement, la gestion administrative de cette chose-là. Ensuite, il y a un autre temps donc qui est un temps de gestion du lycée. Et donc là, on est réparti, l'ensemble de la communauté scolaire est réparti en groupes de base, donc qui sont des lieux de réunion. Avec donc trois professeurs et une trentaine d'élèves à peu près, et de chaque groupe de base il y a des délégués qui se réunissent en réunion générale de gestion, et donc ça fait un aller-retour en fait sur toutes les discussions qu'il y a au sein du lycée et toutes les prises de décision qu'il y a à prendre au sein de la communauté scolaire. Voilà, il y a la réunion d'équipe aussi qui a lieu toutes les semaines et qui est ouverte à tous les membres du lycée. La réunion d'équipe concerne l'ensemble des professeurs du lycée. Voilà, donc ça c'est un peu sur comment ça fonctionne. Voilà, au lycée actuellement, on peut y passer le bac ou pas d'ailleurs. Et actuellement, il y a des petits problèmes depuis quelques temps. C'est-à-dire que avec le rectorat, il y avait une convention qui était établie depuis 2011 qui permettait au lycée de fonctionner. Où il y a eu un refus de renouvellement donc de cette convention en 2022. Et depuis ce refus de renouvellement de convention, il y a eu diverses attaques qui ont été menées par le rectorat au lycée. Donc là, je vais laisser Pascal vous expliquer.
Alors, donc, puisque Jeanne parlait de ce qui s'est passé depuis 2022. Donc depuis 2022, on a eu un certain nombre d'interventions du rectorat, au début sans trop comprendre où il voulait en venir. Enfin, si on comprenait bien qu'il voulait remettre en question un certain nombre de choses, mais on savait pas quelle direction ça allait prendre, puisque tout d'abord à l'été 2022, il a d'abord été question de la sécurité des locaux et peut-être la question que c'était impossible de laisser une porte ouverte en plein Paris avec toutes ces menaces qu'on recevait de la part des fascistes. Donc au début, c'était presque pour nous aider à nous défendre des fascistes qui venaient de temps en temps. Et donc on nous allait nous faire fermer la porte pour nous prémunir de ces attaques, mais aussi questionner un certain nombre de choses. Et puis après, à l'automne 2022, il a été question de savoir si on respectait bien les principes de laïcité et de neutralité. Voilà, ils nous ont questionné là-dessus, on y reviendra par la suite. Donc il y a eu un certain nombre de rebonds comme ça pour questionner notre fonctionnement et sans vraiment avoir de prise, parce qu'à chaque fois ils changeaient de sujet. Et puis fin 2022, ils nous ont dit il faut qu'on réfléchisse ensemble et peut-être qu'il faut qu'on remette à plat un certain nombre de vos principes de fonctionnement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire non plus une convention, mais un projet d'expérimentation. C'était ce qui avait été mis en place par la loi 2019, dite École de la confiance, pour en parler. Et donc, on part là-dessus. On a fait deux rédactions successives. À chaque fois, ça convenait pas. Mais bon, on nous disait pas exactement ce qui convenait pas. On nous disait, non, faut qu'on en reparle. Début 2023, il y a eu une crise majeure, crise très importante qui arrivait au lycée. Des élèves ont accusé un enseignant par rapport à la façon dont il s'adressait à des élèves, des propos déplacés, de parler à des élèves en disant ma puce, ma princesse, et donc des élèves avaient dit faut que t'arrêtes de nous parler comme ça. Et d'autres élèves avaient dit que quand il faisait des parades en escalade, il y avait des problèmes dans la façon dont il parlait. Donc à partir de là, il y a eu une grosse crise qui a éclaté, principalement sur la question de est-ce qu'on remonte ce qui s'est passé au rectorat, donc est-ce qu'on fait quelque chose qui s'appelle un RIMS, rapport d'infraction en milieu scolaire, Et est-ce qu'on exclut, est-ce qu'on passe par l'exclusion directe de cet enseignant? Et donc il y avait une opposition à la fois sur la forme du recours à la hiérarchie et de la place de l'exclusion et d'autres propositions telles que la justice transformatrice, de discussion, de voir comment on pouvait prendre en compte ce que disaient les uns et les autres. Enfin, là, des vraies questions. Et, ça, et là, peut-être si on avait le temps de rentrer, il y a énormément de choses à dire et qui, à mon avis, rejoignent la question de l'autorité, l'autoritarisme. C'est-à-dire que quand à un certain moment, moi j'ai pu dire des positions que je maintiens depuis de nombreuses années, qui est que le recours à la hiérarchie est très très souvent, on pourrait même dire tout le temps, une très mauvaise idée et que ça ne résout pas les questions, voire que ça les empire. Quand je dis ça, ça a été pris pour une position autoritaire d'empêcher certains de vouloir rendre justice. Voilà, donc il y a plein de choses sur l'autorité qui seraient vraiment à questionner, et je pense que bon, on pourra s'intéresser à l'histoire malheureusement prochainement. Donc il y a cette crise majeure qui éclate et qui divise et qui fait souffrir beaucoup de personnes au sein du collectif. Et comme ça arrive au même moment où le rectorat était dans une volonté de transformation, eh bien évidemment, il s'en empare. Et donc de janvier 2023 à juin 2023, les relations se tendent de plus en plus avec le rectorat. Et on apprend fin juin 2023 que le recteur de l'époque, Guerrero, avait décidé, on n'a pas eu confirmation, mais c'est ce qui nous a été dit, avait été décidé de fermer le lycée pour la rentrée 2023. Et il avait même prévu, d'après ce qui nous a été dit, de replacer tout le monde, les élèves, comme ça, de façon ultra brutale et ultra immédiate. Pour la rentrée. Mais d'après toujours ce qu'on nous a dit, le ministre de l'époque, Pap Ndiaye, lui aurait dit c'est pas possible de faire comme ça, il faut qu'on fasse les choses dans les formes, et donc il faut qu'il y ait une vraie enquête qui atteste des dysfonctionnements du LAP. Donc on va déclencher une enquête administrative. Cette enquête administrative a bien eu lieu. Voilà, puisque à la rentrée 2023, on a été tous les enseignants convoqués pour des auditions, avec des choses qui fonctionnent un petit peu à une audition policière, c'est-à-dire qu'on commence par un sujet, puis on va réduire de plus en plus le truc pour amener où on veut en arriver. Là, on voyait pas forcément très très clairement, mais enfin, ça commençait un petit peu à s'éclaircir. C'était vraiment toutes les questions qui pouvaient être retenues à charge contre le fonctionnement du lycée. Donc, que ça soit le fonctionnement un peu original des voyages, où on nous a vu par la suite qu'on nous a reproché, comme à Saint-Nazaire, d'utiliser, alors nous, c'était de location, des minibus 9 places et de les conduire nous-mêmes, ça c'était complètement impensable, que ça soit sur l'organisation des repas, que ça soit sur la manière d'enseigner, enfin tout ce qui pouvait aller à charge contre le lycée était retenu. Donc tous les enseignants ont été auditionnés, des parents qui avaient fait une lettre au moment de la crise de 2023 ont aussi été auditionnés, et enfin des élèves qui avaient aussi écrit au rectorat ont été auditionnés. À partir de là, on n'a pas eu tout de suite le rendu de cette enquête administrative, mais les choses se sont encore empirées, puisque d'un point de vue de notre autonomie de fonctionnement, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. La première, alors elle est un peu antérieure à celle de l'enquête administrative, c'est de suspendre la cooptation. C'est-à-dire que les enseignants qui viennent travailler au LAP sont des enseignants qui sont volontaires pour travailler différemment, en équipe, avec un temps de présence qui est supérieur au temps habituel des 18 heures, et surtout qui sont volontaires par rapport aux projets autogestionnaires, pédagogiques différents, enfin qui ont conscience de ça, et donc qui sont aussi choisis avec un vote en équipe pour que un élément important de constitution de cette équipe. Donc ça a été suspendu par le rectorat. Donc là, les choses étaient assez claires, mais maintenant elles le sont absolument, puisque on vient d'avoir le communication, enfin pour les, j'y reviendrai, l'intégralité de l'enquête administrative, et donc ils disent très clairement que c'était pour confisquer ce pouvoir de l'équipe et donc reprendre le pouvoir en insufflant des personnes qui iraient plus dans le sens de celle de l'académie. Donc maintenant c'est écrit noir sur blanc, c'est ce qui s'est passé. Donc ça c'est la première décision. La deuxième décision c'est celle de mettre en place une autorité réelle du chef d'établissement du lycée de rattachement qui est le lycée Jean Lursa, et donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait de demander des justifications sur les activités pédagogiques et en particulier les voyages, mais ça a même été plus loin parce que, par exemple, pour donner un exemple, en novembre 2023, elle a refusé d'acheter des calculatrices. Voilà, on fait des bons de commande et puis on lui soumet, normalement, elle tamponne, elle signe et c'est plié. Là, elle a dit non, non, pas question. Elle a dit, qu'est-ce que c'est, comment ça, pas question. Elle dit oui, parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est des calculatrices que vous allez donner aux élèves et l'État ne peut pas fournir comme ça. Bon, ça poserait d'autres questions, mais on dit, mais non, c'est pas ça, en fait. Et donc, voilà, il y a eu un contrôle très, très fort de la part de donc, la mise en place de cette autorité. Et dernier élément important, donc on imagine qu'à l'automne, ils étaient vraiment en train de réfléchir s'ils fermaient en cours d'année, comme ça, le lycée, en recasant tout le monde, puisque c'était une des hypothèses qui avait été envisagée. Et donc, en octobre et même début novembre 2023, on n'avait toujours pas le budget de fonctionnement de l'année 2023 qui ait été versé. Donc, on est arrivé. Il y avait heureusement un peu d'argent de, enfin heureusement, il y avait un peu d'argent de côté de par le fait des confinements. Où pendant les confinements, ils ont fait des économies sur tous les lycées. Nous, c'était resté, ça avait fait un petit peu de côté. Mais il arrivait un moment, il restait plus que 300 euros sur le budget, ce qui est complètement illégal et complètement hors réglementation habituelle, parce que l'État étant son propre assureur, un établissement doit garder de côté à peu près l'équivalent, enfin je sais pas exactement les chiffres, mais ça doit être quelque chose comme 10 000 euros en cas de coup dur, je sais pas, une chaudière à remplacer ou des choses comme ça. Là on est arrivé à 300 euros. Donc là il y a eu une petite alerte. Au dernier moment, ils ont décidé de reverser le budget 2023 et en parallèle, ils ont confirmé qu'il n'y aurait aucun voyage ni sortie qui puisse être organisé. Donc tous les élèves du lycée ont été privés de sortie et de voyage cette année, là, le sont encore. Sauf si c'est nous qui les financions nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait un refus complet de la hiérarchie de financer les voyages. Donc voilà, donc une grosse, grosse entrave. Et les choses se sont un petit peu éclairées. Mais je vais peut-être repasser la parole à Jeanne.
Ah non, c'était à toi qui
devais
parler
ça. Vas-y, vas-y. Bon, mince, j'ai zappé dans la répartition. Mais tu veux passer sur le déclenchement
Non, mais en tout cas, moi, après, Pascal sera plus, parce qu'il est concerné, donc sera plus clair que moi sur ce sujet, une fois de plus. Mais suite donc à l'enquête administrative moi, je voulais dire, sur l'enquête administrative, il y a personne qui est jamais venu au lycée autogéré de Paris. Donc, ça, comme disait Pascal, ce n'a été que des entretiens qui ont été faits au rectorat par des inspecteurs. Et donc, suite à ça, il y a eu une déclension de 4 suspensions de professeurs dans l'équipe qui compte 24 profs et demi. Ça fait pas mal. Et qui ont été... ça a été appris par un coup de téléphone expliquant que les remplaçants étaient prêts à arriver le lundi revenant des vacances. Donc ça, c'était aux vacances de février. Suite à ça, ensuite, on a appris que ces professeurs qui étaient suspendus avaient des procédures disciplinaires contre eux. Ces 4 professeurs ont reçu des convocations pour aller consulter leur dossier. C'est un dossier administratif. Là, Pascal et Déborah ont déjà fait ça cette semaine. Et il y en a 2, qui ont reçu aussi leur convocation au conseil de discipline pour l'instant. Je vais laisser Pascal préciser tout ça.
Parallèlement à ça, et donc au moment où on a appris nos suspensions, le directeur académique des services, donc de celui qui s'occupe de le plus haut placé pour le second degré, est venu au lycée annoncer la fin du projet. Donc il est venu le 9 février et c'est là où on a eu les premiers éléments de l'enquête administrative qui en gros dit le lycée a dysfonctionné de manière structurelle pendant l'année 2023, mais en fait les dysfonctionnements vont bien au-delà de l'année 2023 et c'est un dysfonctionnement total de notre regard depuis des années. On va revenir après sur un certain nombre de caricatures qui sont versées pour abonder à cette conclusion. Dysfonctionnements qui mettent en danger les élèves et qui mettent un climat délétère dans l'équipe. Et donc, il faut à la fois prendre des décisions de sanctions contre certains enseignants et à la fois remanier profondément le projet. Et en gros, ça veut dire le massacrer complètement, puisqu'il dit la première des choses, c'est la cooptation qui a été suspendue. Bah, c'est fini. Maintenant, c'est la règle des postes à profil qui va être mise en place. Et c'est donc les inspecteurs qui vont choisir qui va venir travailler et quelles seront les personnes, parce qu'on reproche très clairement à tous ceux qui seraient englués dans une idéologie autogestionnaire. Donc il faut balayer tout ça et mettre des personnes qui seraient des vrais innovateurs pédagogiques, mais très très loin de toute connexion avec une dimension politique. Donc la cooptation, c'est fini. La libre fréquentation... On nous dit pas exactement comment va être balayé, mais c'est clair que ça ne peut plus être ce que c'est actuellement, et notamment ça ne peut plus être le fait que des élèves mineurs soient ou ne soient pas au lycée sans que les parents soient immédiatement prévenus. Ça, c'est quelque chose qui était dans les clous depuis des années, mais maintenant c'est clair qu'ils ont dit ça ne restera pas. On ne sait pas encore, il y a un petit suspense, on va le préciser jusqu'à lundi prochain, si c'est jamais c'est annoncé. Et troisième et non des moindres des décisions, la proviseure du lycée d'appui a, et là on n'attend même pas la rentrée 2024, a compté de ce jour, donc on est le 9 février, une vraie autorité et devient la chef d'établissement d'un lycée dit autogéré. Voilà, donc ça c'est le projet est clairement mis de côté. Donc parallèlement comme l'a dit Jeanne, on est 4 suspendus, il y a des procédures disciplinaires pour 4 d'entre nous, on est 2 à passer en conseil de discipline. Les conseils de discipline ont pour principale raison, dans ce qui nous a été dit, le fait que les élèves, au lendemain du premier tour de 2022, voulu réagir au second tour Macron-Le Pen, et décidé dans la journée du 11 avril, donc le lendemain, lundi 11 avril 2022, d'occuper pendant la nuit du 11 au 12 le lycée pour faire des tracts, des banderoles, réfléchir et tout ça. Et donc on reproche à ce que 2 enseignants les aient accompagnés. C'est ça, donc il y a une vraie dimension encore politique qui est visée. Alors bien évidemment, ils tapent de côté, hein, c'est-à-dire que ce qui serait reproché, c'est que des élèves aient bu des bières et que nous aussi on ait amené une bouteille de vin, donc ça c'est complètement impensable. Ils attaquent pas directement le fait que les élèves se mobilisent, mais ça revient clairement à ça. Donc là, on vient, puisque les 2 conseils de discipline, c'est les 14 et 17 mai, on vient de recevoir l'intégralité du dossier de l'enquête administrative, et c'est une vraie caricature. Alors malheureusement, on s'est tous mis clairement le doigt dans l'œil, c'est-à-dire que nous, à l'été 2023, dans l'équipe, on pensait que en réexpliquant, comme on l'avait déjà fait avant, le bien fondé de notre projet, et en argumentant par les résultats concrets... Alors, on savait que cette seule rationalité n'allait pas suffire avec le pouvoir, hein. Et un petit coup de pression et en utilisant les médias, ça allait le faire. On s'est complètement planté parce qu'ils avaient décidé d'aller à fond. Ils le disent clairement. Il faut assumer la fermeture du lycée autogéré. Ça coûtera moins cher que de continuer à garder l'existence d'un tel truc. Voilà. Ils le disent. Donc, ils avaient pris une décision, quitte à y aller avec un bulldozer. Voilà. Donc, on s'est complètement planté. Malheureusement, je ne sais pas pour en faire une polémique, mais ils ont été aidés par des délateurs en interne. Il y a des choses assez tristes qui se sont passées dans la crise, et il y a des gens qui ont balancé un certain nombre de choses. Alors, pour cela, je ne sais pas dans quelle mesure où ils ont 100 000 doigts dans l'œil, qu'est-ce qu'ils espéraient, ou si c'est une rage qui les a guidés, je ne sais pas. Mais parallèlement à ces délateurs forcenés, il y a un certain nombre de personnes qui pensaient que, en alertant le rectorat de ce qui leur convenait pas, que ça soit des élèves qui pensaient qu'il effectivement fallait des sanctions par rapport à cet enseignant, ou que ça soit des parents qui ont dit que certains enseignants n'avaient plus leur place dans le projet actuel, parce qu'ils étaient toujours trop dans cette vision passéiste de l'autogestion et qu'il fallait quand même des choses plus modernes. Ces personnes pensaient, j'imagine, être entendues par le rectorat. Et en réalité, on le voit très clairement maintenant, la seule chose qu'entend le rectorat et qu'entend le pouvoir, c'est celle qui va dans son sens. Et le sens du rectorat, c'était celle de massacrer le projet du lycée, d'en finir avec cette chose qui va complètement à l'encontre de l'école qui est prônée actuellement, l'école de la compétition, l'école de la mise au pas, de l'uniforme, d'une sélection forcenée. Voilà, tout ce qui va à l'encontre dans le concret et dans le réel, comme le font, puisque là, il y a des camarades qui ont soutenu Bonaventure, des écoles Freinet à Bobigny, il y a les camarades de Saint-Nazaire qui sont là. Tous ceux qui, dans le concret, mettent en place des alternatives, risquent à minima de se bien se faire emmerder. Et comme on le voit là dans le lab, ou comme on l'a vu par le passé avec Paul Robin, Francisco Ferrer, Freinet, eh bien, risquent la répression, qui peut aller jusqu'à l'exécution. Heureusement, on n'en est pas encore là. L'enquête administrative n'avait que pour seul objectif de valider la décision qui était déjà prise, qui est celle de faire fermer le lycée autogéré. Parce que je reprends un certain nombre de, c'est vraiment très ultra caricatural. Enfin, on est traité de bouffonnerie, de ZAD de luxe, de garderie pour adultes. Enfin, même des personnes qui avaient pris des positions publiques pour dire que c'était intéressant le lycée autogéré de Paris, qu'il y avait des choses à creuser, et voilà que l'académie pouvait être fière qu'il y ait ce genre d'expérimentation. À partir du moment où le signal a été lancé de ça y est, on lâche le lap et défoulez-vous sur tout ce que vous pouvez dire de plus caricatural sur ce lieu, eh bien, c'est complètement lancé. Et on n'a pas encore pris la décision de rendre public, parce que pour l'instant, on n'est que deux à l'avoir eu. Mais par contre, je suis vraiment pour. C'est-à-dire que c'est tellement grossier la façon dont surtout quand on a vu quand même il y a quelques mois, il y a le rapport de Stanislas, où il y a quand même un certain nombre de choses qui posent question. Et là, on dit, peut-être qu'ils peuvent prendre conscience des petits écarts qu'ils ont faits par rapport à un certain nombre de grands principes et tout ira bien. Et là, il faut fermer ce lieu, quoi, clairement. Donc, le deux poids deux mesures et la hargne du pouvoir est clairement établie. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faudra réfléchir et discuter. Alors, je sais pas si on aura beaucoup le temps pour discuter. On avait un certain nombre de questions ou de choses à dire sur la fin. Je sais pas si je te repasse la parole.
Oui. On voulait rappeler que c'était important d'avoir des lieux comme le lycée autogéré qui existent et qui permettent une bulle de liberté pour les élèves qui ont la chance de pouvoir y aller, et pour les professeurs qui y enseignent aussi, j'ai envie de dire. Voilà, que rappeler aussi que le collectif dans ces lieux, c'est hyper important, parce que c'est le délitement du collectif qui a permis l'incursion du rectorat et des attaques jusqu'à la presque fermeture du lieu, ce qui a été dit et ce qui va être apparemment dit, il y a une réunion qui est prévue pour le lundi au rectorat, pour une réunion de travail apparemment avec un certain nombre de gens de l'équipe qui ont été invités. Donc au départ, ils avaient invité que 10 personnes ou une dizaine de personnes de l'équipe, puis finalement apparemment tous les professeurs ont été invités, mais ils permettent aux professeurs de refuser, enfin de se retirer du lycée autogéré, tout simplement, pour ceux qui sont pas d'accord avec ça. Donc j'ai envie de dire, il y a la volonté de ils sont arrivés en disant qu'il fallait faire un dispositif innovant, il y a une grosse volonté de casser complètement l'autogestion du lycée autogéré, ça a été permis par le fait qu'une partie de l'équipe et des membres de la communauté scolaire s'en sont référés au rectorat et par le recours à la hiérarchie permettent ça. Et qu'après, il y a une... Moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a une grosse violence de la part du rectorat dans la manière dont toutes les décisions et toutes ont été vis-à-vis des professeurs suspendus et vis-à-vis du lycée autogéré, dont tout ça a été mis en place. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps entre les convocations et les rendez-vous auxquels ils sont convoqués. Il y a tout un tas de petites choses comme ça qui sont vraiment pour détruire les gens et l'établissement. Voilà.
Merci. Peut-être qu'il y a des questions. Tu veux
rajouter... Je voulais rajouter un dernier petit truc.
Il y a un comité de soutien avec des adresses, ouais, et des choses comme ça.
Je voulais rajouter un dernier petit truc sur la répression. Parce qu'évidemment la répression est faite pour dissuader des gens et pour faire peur, hein. Là, dans un premier temps, ils avaient attaqué la coordinatrice, donc il y a des gens derrière qui se demandaient est-ce qu'on peut être coordinatrice, mais c'est vraiment fait pour empêcher les personnes de se mobiliser et continuer à promouvoir des alternatives, prendre des risques, à aller à l'encontre du pouvoir. J'ai quand même envie de dire, c'est-à-dire que ça a été rappelé hier, on avait une réunion du collectif Sois prof et tais-toi hier soir dans ce même lieu. C'est aussi, et là je reprends, que ça soit Paul Robin, Francisco Ferrer, Freinet, c'est aussi une vraie reconnaissance du fait qu'on fasse des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils attendent. Donc c'est pas un hasard, quoi. Quand on lit encore une fois cette enquête administrative, c'est tellement caricatural qu'on pourrait en sourire, c'est-à-dire qu'on doit passer pour des personnes bloquées dans les années 70, et ils accolent à ça quand même, qui ne sont là que pour leur confort personnel, qui ne voient que leur intérêt et tout ça. Bon, c'est un tout petit peu décalé par rapport à l'implication qu'on met dans le lieu et le temps qu'on y a passé. Ça fait forcément un petit peu mal, mais en fait, ils visent très clairement ce qu'on fait et ce qui est de faire différemment et qui est de poser les bases d'une éducation qui soit complètement contraire à la société qu'on nous propose et qui remette les fondements de cette société en cause. Et c'est pour ça qu'on est réprimé. Donc il y a quelque part, alors c'est vrai que ça fait mal et que ça va faire mal financièrement parce qu'on nous dit qu'on risque soit la radiation, soit jusqu'à 2 ans sans traitement. Donc il y a quand même des conséquences financières qui sont importantes. Mais cette chose-là, c'est vraiment parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire et c'est proposer une école qui soit réellement différente dans la pratique et dans les objectifs. Donc, voilà, pour reconclure, c'est vrai qu'il y a des choses concrètes. Bah là, ils vont avoir besoin de soutien face à cette répression. Donc, il y a un comité de soutien qui se réunit tous les lundis soirs. Alors, j'ai plus l'adresse exacte, c'est à l'UPAP dans le 18e, mais il y a un tract qui est au fond de la salle. Voilà. Vous aurez l'adresse et les prochains rendez-vous. Il va y avoir une cagnotte il va y avoir des frais d'avocat et puis, comme je l'ai dit, des frais. Surtout, je pense qu'il y a aussi besoin de se réunir parce que c'est vrai qu'on est quand même très, très inquiet sur ce qui va être mis en place à la rentrée 2024. Et moi, j'ai souvent pris la parole pour parler du lycée autogéré et c'est vrai que c'est une des premières fois que je le fais où je me demande si j'en parle au passé ou quel va être l'avenir de ce lieu qui est quand même magique et qui aurait vraiment besoin de continuer à exister et encore plus à se multiplier parce que c'est vrai que si on en avait 4 établissements, c'était largement pas assez, qu'il en faut beaucoup plus des lieux d'alternative à cette école qui massacre. Mais même maintenant, ces 4, il y en a un des 4 qui est très très clairement menacé d'existence. Donc la présence au comité de soutien, elle est importante pour ça. Et comme l'a dit Jeanne, je pense que vraiment, si on a pu être massacré à ce point, c'est parce que pour la première fois en 42 ans, on s'est montré désuni face au pouvoir. Et ça, c'est une leçon d'histoire ultra importante. À chaque fois que le collectif ne fait pas front, on se fait massacrer. Donc vraiment, retenir cette leçon pour moi.
Merci à Jeanne, merci à Pascal. Donc, je sais pas, avant de faire une petite pause quand même, parce que ça va faire du bien, est-ce qu'il y a 2-3 remarques, compléments d'information ou autres? Comme d'habitude, des questions brèves et des réponses courtes.
C'est pas une question, mais c'est une proposition. Est-ce que c'est pas le moment de faire front de façon argumentée sur cette question d'autorité, en fait, élargir au lycée autogéré, de vraiment je travaille dans le social, avec faire communauté autour de cette question, écrire, faire corps plus largement, mais c'est peut-être le moment, vu en effet de ce qui se passe au niveau de l'éducation là, au niveau de l'autorité, et voilà, Donc moi, je propose juste qu'on se réunisse peut-être une autre fois, de façon plus circulaire. Non, mais tous là.
Moins frontal.
Donc, c'est bon ? Attends, parce qu'on est sur Radio Libertaire et en direct, il faut absolument que je parle pendant que je me déplace et que tu prennes ce micro de manière à ce que les auditeurs et les auditrices puissent entendre la remarque particulièrement pertinente que tu vas formuler.
Bonjour aux auditeurs. Ce n'est pas une remarque, c'est juste pour signaler qu'on a une brochure sur le lycée autogéré, donc que les auditeurs ne pourront pas avoir. C'est bien dommage pour eux, ils avaient qu'à être là. Voilà, et c'est sur le site, et puis on va le déposer à Publico, oui, je pense que c'est faisable. Voilà, donc elle est là avec les tracts, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci à toi. Tu veux la parole une seconde ? Attends.
C'est aussi un complément d'information assez rapide, mais pour ajouter que dans les dates de mobilisation à venir proposées par le comité de soutien au LAP et aux enseignants suspendus, il y a une date de lundi qui correspond donc à ce qui a été évoqué comme la réunion proposée par la hiérarchie et notamment la direction du lycée de référence Jean Lursa, qui organise un moment de présentation du nouveau projet. Et donc on fait une casserolade pour rouvrir la saison printanière des casseroles. Et donc il faut venir avec sa casserole, par contre. Les casserolades abîment les casseroles, donc venez avec des casseroles déjà usées. Et on se retrouve tous à partir de 13h15, puisque la réunion a lieu à 14h, devant le lycée qui est avenue des Gobelins,
48.
Au 48, merci. Voilà, à 13h15, lundi, nous espérons y être nombreux. Merci.
Brièvement, parce qu'on a déjà beaucoup de retard, et que le retard s'accumule, comme on le sait.
Donc, je m'appelle Gérald. Question. Alors, on a pu vous diviser parce que vous étiez en désaccord entre vous dans l'équipe. Mais est-ce qu'en face, l'éducation nationale, c'est un bloc monolithique, ou est-ce que là aussi, il y a des franges peut-être un peu plus avancées et d'autres plus réactionnaires, ou c'est vous êtes face à un bloc ? Justement, est-ce qu'on peut faire la division de l'autre côté aussi ?
Alors, je dirais qu'ils sont moins divisés qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, ou en tout cas que ceux qui pensent pas comme ceux qui sont en haut, on s'arrange pour ne pas qu'ils puissent faire entendre quoi que ce soit. On n'a pas tellement d'alliés, et la question du pouvoir pyramidal fait que si le sommet de la pyramide décide quelque chose, et avec des décisions aussi fortes que celle-là, c'est difficile de les remettre en cause. Mais faudrait trouver. Il y a forcément des personnes, mais pour l'instant beaucoup moins qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que même dans la direction à l'éducation nationale, il y avait eu un sous Blanquer, un truc anonyme où des personnes haut placées, des inspecteurs, avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec les décisions politiques prises par Blanquer, mais qu'ils avaient été complètement évincés et qu'il y avait une vraie truc de mise au pas, même pour ceux qui ne sont pas spécialement directement nos alliés, quoi.
Juste un mot, oui, merci Hugues. Bruno, donc je suis intervenu tout à l'heure, tu parles d'alliés. Bon, en tant qu'enseignant-chercheur, on est quelques-uns à évidemment soutenir toutes ces initiatives de pédagogie différentes avec la FESPI, hein, la Fédération des établissements scolaires publics innovants auxquels vous êtes affiliés. Bon, c'est vrai que si on peut servir à quelque chose, avec Yves Reuter, avec d'autres, on en parle de ça. Faut pas hésiter, je dirais, à faire aussi appel à nous. Nous, on relaie tout ce que vous nous faites passer, les pétitions, les choses comme ça, on les relaie chez les collègues en sciences de l'éducation qui travaillent sur ces pédagogies différentes et qui soutiennent ce que vous faites. Donc, parfois, ça peut aider, mais ça, évidemment, c'est pas miraculeux.
Allez, 10 minutes de pause. Et après, on va laisser la parole au lycée expérimental de Saint-Nazaire, qui va vous montrer d'autres façons de pratiquer dans des pédagogies différentes et coopératives et co-gestionnaires.
C'est une cour carrée et qui n'a rien d'étrange. Sur les flancs, l'écurie et l'étable au toit bas. Ici près, la maison, là-bas au fond, la grange, sous son chapeau de chaume et sa jupe en plâtras. Le bac où les chevaux au retour viendront boire dans sa berge de bois est immobile et d'or. Tout plaqué de soleil, le purin à l'eau noire, lui, le long du fumier gras, épailleté d'or. Loin de l'endroit humide où gît la couche grasse, au milieu de la cour, où le crottin plus sec, riche de grains d'avoine en poussière, s'entasse, la poule l'éparpille à coups d'ongles et de bec. Plus haut, entre les deux brancards d'une charrette, un gros coq, satisfait, gavé d'aise, assoupi, hérissé, l'œil mi-clos recouvert par la crête, ainsi qu'une couveuse en boule est accroupie. Des canards hébétés voguent l'œil en extase, on dirait des rêveurs. Quand soudain, s'arrêtant pour chercher leur pâture au plus vert de la vase, ils crèvent d'un plongeon les moires de l'étang. Sur le faîte du toit dont les grises ardoises montrent dans le soleil leurs écailles d'argent, des pigeons violets, aux reflets de turquoise, de roucoulements sourds gonflent leur col changeant. Leur ventre, bien lustré, dont la plume est plus sombre, fait tantôt de l'ébène et tantôt de l'émail. Et leurs pattes, qui sont rouges parmi cette ombre, semblent, sur du velours, des branches de corail. Au bout du clos, bien loin, où vont paître les oies et vaguer les dindons noirs comme des huissiers. Oh, qui pourra chanter vos bonheurs, vos joies, rentiers, faiseurs de lard, philistins, épiciers. Oh, vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Son devoir, c'est-à-dire, elle blâmait les choses inutiles, car elle était d'esprit zélé. Et quand des papillons s'attardaient sur des roses, elle cassait la fleur et mangeait les trellés. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Elle ne sentit pas lui courir sous la plume de ces grands souffles fous qu'on a dans le sommeil pour aller voir la nuit, comment le ciel s'allume et mourir au matin sur le cœur du soleil. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Aussi comme leur vie est douce, bonne et grasse, qu'ils sont patriarcaux, PA, vermillonnés 5%, quel bonheur de dormir dans la crasse, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, n'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, posséder pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti, disant « Oh, les gens bienheureux !» Tout à coup, dans l'espace, si haut qu'il semble aller, lentement, d'un grand vol en forme de triangle, arrivent, planent et passent. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol, les pigeons, le bec droit, poussent un cri de flûte qui brise les soupirs de leur col redressé et sautent dans le vide avec une culbute. Les dindons d'une voix tremblotante ont gloussé. Les poules picorant ont relevé la tête, le coq droit sur l'ergot, les deux ailes pendant, clignant de l'œil en l'air et secouant la crête. Vers les hauts pèlerins pousse un appel strident. Qu'est-ce que vous avez, bourgeois, soyez donc calmes. Pourquoi les appeler, sauf ils n'entendront pas. Et d'ailleurs, eux qui vont vers le pays des palmes, crois-tu que ton fumier est pour eux des appâts? Regardez-les passer, eux ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus mont et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre la chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous. Mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Ils sont maigres, meurtris, là, harassés, qu'importe. Là-haut chante pour eux un mystère profond à l'haleine du vent. Inconnus qui les portent, ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes, ils vont. La bise contre leur poitrail siffle avec rage, l'averse les inonde et pèse sur leur dos. Eux dévorent l'abîme et chevauchent l'orage. Ils vont loin de la terre, au-dessus des badauds. Ils vont par l'étendue ample, roi de l'espace. Là-bas, ils trouveront de l'amour, du nouveau. Là-bas, un bon soleil chauffera leurs carcasses et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau. Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve. C'est l'horizon perdu par-delà les sommets. C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève où votre espoir banal n'abordera jamais. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiante. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
C'était Les Oiseaux de Passage, Raymond Gary. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, vous devez entendre le brouhaha un petit peu derrière moi. C'est, nous sommes pendant une pause lors du colloque éducation autogestionnaire, coopérative et libertaire. Encore un tout petit peu de musique et puis on reprendra le direct. Là, on est en direct hein, de Montreuil, l'espace aéri. On reprendra avec le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite après la prochaine pause ou après la suivante. On verra bien, mais restez à l'antenne.
Il n'y a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé, juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Au fier messager de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes, des banlieues, se taille un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse. C'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. On gommera nos masques tristes. enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture. Je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière pour leur dire qu'on ne les oublie pas.
Je suis humain, Eric Frasiak. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4 en direct de l'espace Aéri à Montreuil pour le colloque éducation autogestionnaire, coopérative et libertaire. Et le lycée expérimental de Saint-Nazaire est en train de s'installer, donc le direct doit très très bientôt reprendre. Mais je vous relance un petit peu de musique pendant que tout ça finit de s'installer.
Encore un cri, voilà que la vie recommence. Voilà qu'elle s'offre encore au dernier venu. Comme une erreur, un signe de non-providence. Comme un cadeau que tant d'autres n'ont pas voulu. L'enfant qui vient s'éloigne de sa délivrance. Il quitte ce pays qu'il ne reverra plus. Ses bras tendus mesurent déjà la distance entre son corps libre et le paradis perdu. On vient au monde après de vaines résistances, tant de douleurs qui nous resteront bien longtemps, comme la preuve utile de toute existence. Au rendez-vous des premiers désenchantements, y a-t-il eu une autre vie après la naissance? Encore un cri, voilà que débute l'errance. Par les sentiers battus, l'enfant pose ses pas, dans le sourire étonné de son ascendance. On pourrait voir le chemin qu'il ne fera pas. Qu'il soit né dans la périphérie de nos villes, ou le fin fond des belles campagnes de France, l'enfant saura qu'il hérite de sa famille en un seul jour, de son malheur ou de sa chance. On vient au monde et ce n'est une récompense qu'au prix d'un combat qui débute maintenant, comme la preuve utile de notre existence. Au rendez-vous des tout premiers enchantements, pour qui veut croire à la vie après la naissance. Les contes de fées trahissent la jeunesse. Quelques gestes d'amour pourraient bien tout changer. L'enfant qui vient connaît déjà ce qui le blesse. La seule issue rêvée vient de se refermer.
C'était Requiem pour une naissance, Louis Capard. Eh bien, vous entendez le brouhaha derrière. Tout le monde est en train de s'installer pour la reprise du colloque avec le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Mais comme tout le monde n'est pas assis et prêt à causer, eh bien, on va encore écouter un petit titre. Ah, je crois bien que ça va être Raymond Gary, ni Dieu ni flotte.
On ne croit pas aux clous des fakirs, on croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà. On préfère le
colinard bon, hein.
Au qui.
Voilà, s'il vous plaît, comme on a pris un peu de retard, on va reprendre. Et on va laisser la parole. On dit les Nazaréens, dit quoi? Les Nazaréens et Nazaréennes. Nazaréens, rien à perdre. Ouais. Voilà, donc le lycée expérimental de Saint-Nazaire, qui est l'un des quatre lycées expérimentaux qui avait été mis en place par Savary en 82. C'est ça? Voilà, comme quoi il y a eu des ministres de gauche qui avaient un peu d'intelligence. Mais depuis, ils sont plus de gauche et ils sont même plus intelligents. On a tout perdu, là. Voilà, donc reprenez place. Vous vous présentez, tout ça, vous vous débrouillez, quoi. On s'autogère, quoi. Enfin, on se co-gère, pardon. On se co-gère. Voilà. Allons-y.
Bonjour, moi c'est Nathalie, je suis membre de l'équipe éducative depuis quelques années au lycée expérimental de Saint-Nazaire. J'interviens en littérature et en théâtre et dans d'autres disciplines ou champs du savoir parce qu'on est souvent en co-animation avec d'autres collègues.
Alors bonjour, moi c'est Noé, je suis au lycée expérimental maintenant depuis un an. Donc j'entame ma première année de découverte, hein, sans avoir la pression du bac. Et l'année prochaine, je me lance dans ma première, si tout se passe bien.
Bonjour, moi c'est Clémentine, je suis membre de l'équipe éducative sur un poste un peu particulier vu que je suis sur enseignante en bricolage. Et contrairement à la plupart des autres membres de l'équipe, je viens pas de l'éducation nationale, mais du coup je suis menuisière de formation et plutôt avec un parcours dans l'éducation populaire.
Bonjour, moi je m'appelle Dylan, j'entame ma première année au lycée, je suis en seconde. Et voilà.
Et on avait fait le choix de vous raconter un petit peu, avant que vous ayez plein de questions à nous poser et qu'on vous explique, comment ça se passait, ce qu'on appelle chez nous les ateliers. Et du coup, c'est Noé qui va commencer à vous expliquer ça.
Et oui. Alors, déjà, pour faire un atelier, il faut avoir une idée d'atelier. C'est le principe. Alors, comment on met en place un atelier au lycée expérimental? Alors, c'est simple. On a ce qu'on appelle des départements. Des départements sont classifiés en trois catégories. Il y a nature, humanité et langage. Et en fonction de l'idée de l'atelier et du but de l'atelier, on va mettre cet atelier dans cette catégorie-là. Et du coup, il y aura un temps sur le moment scolaire qui va être mis en place pour décider des ateliers qu'on va mettre en place pour une période et des ateliers qu'on ne va pas garder. En fait, ça va être un petit peu un vote, et on va aussi mettre en forme les objectifs, les moyens qu'on va utiliser pour réussir à créer cet atelier et ce qu'on va faire à cet atelier. Et une fois que le vote est fait, les ateliers sont mis du coup sur les périodes, généralement c'est sur des périodes de 2 semaines à 1 semaine des fois. Et du coup, malheureusement, il y a des idées qui ne sont pas gardées et on les met dans ce qu'on appelle le frigo. Alors c'est pas un vrai frigo à proprement parler. Mais du coup, voilà, c'est assez marrant de faire ces départements parce que c'est un petit peu une guéguerre de qui aura le meilleur atelier. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit.
Tu peux nous donner un peu des exemples de qu'est-ce que ça peut être des ateliers?
Ah oui, des exemples d'ateliers. Alors, par exemple, cette année, il y a eu, en première partie, donc dès la rentrée, il y a eu un atelier qui a été proposé qui s'appelait Respire Saint-Nazaire. Alors, Respire Saint-Nazaire, le but, c'était pour ceux qui n'étaient pas ou qui n'ont jamais été à Saint-Nazaire, qui viennent de débarquer, de découvrir Saint-Nazaire en se baladant. Et puis, il y avait cette idée-là de d'écrire des poèmes sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. Quand, par exemple, on est allé dans un parc, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on ressent, etc., etc. Il y en a d'autres. Par exemple, il y avait un atelier photo il y a quelques semaines où on était sorti faire des photos et on a pu créer une exposition photo, etc. Enfin, c'est plein d'activités qui sont proposées au cours de l'année. Alors c'est pas comme OLAP où c'est un projet qui dure tout au long de l'année. C'est un projet qui dure 2 semaines et il y a une présentation d'atelier au bout de la 2e semaine. Voilà.
Et du coup les ateliers c'est le matin, donc pendant les premières heures le matin. Il y a du coup les ateliers et donc. Ça se passe sur 2 semaines. On peut faire vraiment ce qu'on veut en atelier. C'est un peu le principe, c'est que en début de période, enfin en début des 2 semaines, on va décider qu'est-ce qu'on fait en fait pendant ces 2 semaines. Si par exemple moi, il y avait mon premier atelier que j'ai fait, c'était l'atelier petit déj. Donc on a fait des gâteaux, on a fait à manger. Et c'était sur la culture des différents petits déj dans le monde entier. Et donc on a cuisiné, par exemple. Et voilà, donc comme Noé l'a dit, en fin des 2 semaines, il y a la présentation d'atelier. Donc c'est, on se rejoint tous dans le hangar le matin vers 11h en général. Et chaque atelier va passer pendant un certain temps et on va présenter qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 semaines-là à tout le lycée. Et voilà, je sais pas trop qu'est-ce que je peux rajouter d'autre.
Je voulais préciser que c'est un bel acte pouvoir quand on a 14-15 ans de prendre le micro pour parler devant vous. Voilà, et que peut-être ça sera plus simple de répondre aussi aux questions. Tu veux parler des bilans ?
Oui. Alors du coup, il n'y a pas que les représentations d'ateliers. Hein. Forcément, on nous rajoute une tâche parce que sinon, c'est pas drôle. À chaque fin des 2 semaines, on écrit un bilan d'atelier sur, je sais pas, ça peut être sur un téléphone, sur un carnet ou sur une feuille, n'importe. Et on dit ce qu'on a pu faire, comment on l'a fait et si on a aimé ou pas, comment on s'est senti au sein du groupe. En fait, ça sert aussi à garder une trace écrite de ce qu'on a fait tout au long de l'année et ça sert beaucoup. Alors du coup, les bilans, il n'y a pas que les bilans d'atelier, il y a aussi les bilans de mi-année. Donc on raconte ce qu'on a fait depuis le début de l'année, les ateliers, comment on se sent intégré, etc., etc. Et puis si on, je sais pas, si on se sent pas bien, bah, on en discute, etc., etc. Et il y a aussi les bilans de fin d'année qui sont exactement le même principe. Et puis c'est tout.
Qui veut prendre la parole?
Moi, je voulais peut-être juste ajouter 2 mots. Merci pour ces présentations. Peut-être plus sur la question de la posture de l'enseignant-enseignante dans ces moments-là. Ce sont des moments où on s'inscrit, on essaie de s'inscrire dans de la pédagogie de projet et c'est assez étonnant quand on arrive là-dedans en termes de didactique parce que on va réfléchir aux manières de chercher ensemble. Et donc, on se projette, nous, en tant qu'enseignants, pas tellement en amont. Donc, vraiment, les ateliers, on a des épisodes auparavant qui s'appellent les programmations. On se réunit avec les élèves intéressés par cette thématique et on se dit, OK, on a envie d'étudier comment le sel est produit. On habite à Saint-Nazaire. Comment on va faire? Est-ce qu'on va aller chercher dans les bouquins? Est-ce qu'on va aller rencontrer des personnes qui le produisent? Est-ce qu'on va les inviter? Qui a des ressources? Qui connaît des gens? Et on se pose ensemble la question de comment on va faire. Donc c'est en même temps hyper riche, en même temps des fois un peu inquiétant, en même temps des fois ça foire, et des fois c'est chouette. Voilà.
Et puis on est toujours deux membres de l'équipe éducative par atelier, ce qui permet bien sûr de l'interdisciplinarité. Moi, je peux parler, par exemple, l'un des derniers ateliers que j'ai fait, c'était avec Fanny qui est en anglais, et on a travaillé une scène d'Hamlet, voilà, moi théâtre et puis elle anglais. Et je me suis vue même faire les exercices vraiment d'échauffement, tout ça, en anglais, quoi, petit à petit. Voilà. Et il y a aussi des ateliers par rapport à la posture des enseignants, des enseignantes, où on est un petit peu, on se rapproche un peu du maître ignorant. Par exemple, moi, quand je suis dans un atelier de maths, vu voilà mon niveau en maths, ça permet à Xavier, enfin ça permet surtout aux élèves, voilà, de parfois de m'aider en maths, hein, voilà, de se mettre voilà complètement dans une autre posture.
Nous, on se disait qu'on allait faire une présentation assez courte et vous passez le micro. Je sais qu'il y a plein de choses qui ont été évoquées sur des mots qui ont été évoqués sur le lycée expérimental depuis ce matin. On a parlé de cogestion, on a parlé de plein de choses. On s'est dit que si on devait vous expliquer tout notre fonctionnement, on en avait pour les trois prochaines semaines. Du coup, peut-être qu'on va plus répondre à vos questions si vous en avez.
Ils en ont, mais... Je suis pas sûr qu'on ait bien compris la différence entre l'autogestion parisienne et la cogestion nazaréenne.
Je sais pas si... alors, je suis pas sûre que qu'on soit tous et toutes d'accord ici, tous et toutes d'accord au sein du lycée, tous et toutes d'accord là. Je pense qu'il y a, de mon point de vue, plusieurs éléments qui ont été dits, et je vous passerai la parole auparavant sur différence de statut. Moi, je le situerai ici. Pour moi, l'autogestion, c'est un objectif. On pourrait même peut-être dire une finalité. Et donc, l'autogestion, c'est ce qu'on vise. Et de la même manière qu'il était dit dans la vidéo au début de cet après-midi, on va pas fermer les yeux sur les inégalités. Eh bien, pour moi, accepter qu'il y a une différence de statut entre des élèves et des professeurs, c'est justement pouvoir amener à lutter contre ces statuts pour redonner du pouvoir aux élèves. Donc, affirmer qu'il y a une cogestion, c'est pour pouvoir tendre vers l'égalité demain. Et pour moi, ça serait se leurrer de dire « on est en autogestion » alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai plus de pouvoir... Je suis enseignante, je suis d'ailleurs payée pour être là, etc. Et ça me donne aussi des devoirs de garantir un cadre sécurisant pour l'ensemble des personnes. Et donc je le prends aussi comme une responsabilité. Donc voilà, moi je le poserai là. Et j'ai été assez intéressée, ce qui a été cité précédemment sur aucun chouchou. Je me posais la réflexion et je me disais, je crois que je n'ai pas aucun chouchou. Je crois que la manière dont je définis ça, c'est que je préférerais avoir que des chouchous. Et je le pose là parce que souvent, en pédagogie comme ailleurs, on oublie certaines personnes et notamment les femmes. Et du coup, je pensais notamment à cette pédagogue que j'aime beaucoup qui s'appelle Amy Pickler, qui a énormément travaillé sur la question de la référence. Et je crois que je lisais l'autre jour les cahiers de prison de Gramsci où il disait que les étudiants qui réussissent le mieux à l'université sont les étudiants et étudiantes qui ont été les chouchous des profs. Et ben moi je crois que si on veut que tout le monde réussisse, il faut que tout le monde soit chouchou. Au sens où il faut qu'il n'y ait que des interactions diverses et privilégiées. Alors comme ça n'est pas possible, il faut construire des références parce qu'il faut s'assurer que tous les élèves aient des relations privilégiées avec des enseignants et enseignantes. Donc voilà, je dirais plutôt ça, plutôt que pas de chouchou, que des chouchous. Et je crois que c'est un peu comme ça aussi que je vois l'acte d'accompagnement éducatif dans la cogestion.
Oui. Souhaitez-vous rajouter quelque chose sur la cogestion ? Non ? On passe aux questions ? Oui ? Question ? Remarque ? Intervention ? Je me déplace doucement dans la salle. Hop ! À toi, Doué.
Moi, Moi, j'ai une toute petite question. C'est à propos des ateliers. Noé, tu disais qu'il y avait des ateliers qui avaient l'air d'emporter plus de succès que d'autres. Et je m'interrogeais quels étaient ces ateliers. Moi, je travaille en primaire. Je pratique aussi les ateliers. Enfin, je pratiquais les ateliers dans ma classe. Et je sais ce qui marche chez les petits. Mais du coup, chez les grands, ça m'intéresse aussi. Merci.
Alors, merci pour la question. Les ateliers qui marchent le mieux, qui ont plus de succès, pour moi, c'est, enfin, de ce que j'ai vécu en tant qu'élève, c'est des ateliers qui proposent beaucoup de sorties et des sujets, par exemple des sujets artistiques. Par exemple, sur la photo, là, le dernier atelier, c'était l'un des ateliers avec le plus de personnes, même si on était quand même pas beaucoup. Et oui. Mais oui, c'est beaucoup d'ateliers comme ça qui... Je vais me répéter. Hein, qui peut... Ah, Ilan, bah, vas-y.
J'aimerais aussi rajouter que les ateliers, ça dépend vraiment de... En fait, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans l'atelier. Les gens, comment ils sont investis au moment présent. Par exemple, on avait fait un atelier avec Nat, un atelier artistique qui s'était incroyablement bien déroulé tout au long des deux semaines. On était vraiment tous à fond. On avait prévu une exposition au lycée. C'était incroyable. Et au final, ça s'est pas fait parce qu'à la fin, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a fiou, quoi. Genre, et en fait, ça varie vraiment. Donc, c'est un peu compliqué de dire quel atelier précisément va le plus intéresser, va le plus ramener de gens, etc. Parce qu'en fait, ça varie tout autour de la période, des gens, comment ils vont, comment ça se passe. Et c'est... Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'atelier précis qu'on pourrait dire qui marche mieux que d'autres. C'est un peu au feeling, c'est comment ça se passe sur le moment. Je voulais juste dire ça.
Et ça dépend aussi du nombre d'élèves présents au lycée, parce que, alors ça, c'est aussi un problème qu'on a au lycée expérimental, c'est les absentéismes. Donc, en fait, moins il y a d'élèves, moins il y a d'ateliers. Par exemple, là, aux dernières sessions d'atelier, il y a eu 3 ateliers d'annulés parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc, ça dépend aussi beaucoup du nombre d'élèves qui sont présents et qui ont envie aussi de s'impliquer dans ces ateliers-là. Parce qu'il y a aussi des élèves qui sont au lycée le matin, mais qui... je sais pas, ça fait un peu... Non. C'est qui préfèrent en fait rester sur les canapés en casse-bas à regarder des films ou des TikTok plutôt que d'aller en atelier. Il y en a qui s'enferment dans une salle. Il y en a qui, c'est leur choix, mais qui veulent réviser leur bac aussi parce que l'atelier, c'est aussi un temps qui prend beaucoup d'heures, des fois, et pour des gens qui ont besoin de travailler leur bac, etc., ça a besoin de temps. Donc, il y a aussi des ateliers bac, on a oublié de préciser. Donc, des ateliers qui abordent des sujets, par exemple, des sujets d'SVT, des sujets de maths et NSI pour aider les élèves à travailler ce qui leur manque et aussi à avoir un temps en plus, ce qui est quand même bien, sur les deux semaines pour travailler les différentes choses à travailler.
Je profite de ce qu'on dit Ilan et Noé pour faire un petit clin d'œil aux camarades du lycée autogéré parce que effectivement dans nos établissements il y a plein de trucs qui foirent. Il y a plein de trucs qui dysfonctionnent. Bon, déjà, je pense qu'un des premiers trucs, c'est qu'on essaye de les regarder avec honnêteté. Et là où je voulais faire un gros clin d'œil, c'est que malheureusement, tout le temps qu'on prend à lutter, il nous oblige à être dans une posture défensive où on est obligé d'être en permanence dans « regardez, ça fonctionne, regardez, ça fonctionne ». Et c'est autant de temps qu'on perd à ne pas pouvoir analyser à faire une vraie évaluation, à pouvoir améliorer ce qui dysfonctionne, et c'est épuisant, et c'est bien dommage.
En gros, la cogestion, c'est pas de la tarte, quoi.
C'est pas tout le temps de la tarte, non.
Voilà, donc une autre question ou remarque. Donc, je m'approche, j'évite le blanc, m'appelant le noir, en plus, c'est drôle.
Donc, c'était une question spécifique à Saint-Nazaire, qui est que souvent le recrutement est national et que les jeunes ou les profs, il y a aussi des profs qui viennent d'ailleurs, doivent aussi trouver un logement, vivre en autonomie, ce qui n'est pas forcément le cas du LAP. Et je souhaiterais que vous en parliez pour voir toute cette dimension-là qui est très, très importante.
Moi, je vais parler du coup en tant qu'élève. Moi, je ne viens pas de Saint-Nazaire, je viens d'Angers. Donc, je ne vais pas faire l'aller-retour Saint-Nazaire-Angers matin et soir, ce serait un peu fatigant. En fait, à Saint-Nazaire, il y a beaucoup de structures. Je prends exemple sur la résidence Habitat Jeune, où c'est beaucoup de jeunes travailleurs, de jeunes qui font un diplôme ou autre, ou qui cherchent une formation, ou des gens qui sont au lycée expérimental, parce qu'on est quand même pas mal. On nous offre un logement avec un self, etc. Y a rien vraiment en échange. Il y a aussi la structure L'Envolée, c'est un peu un hôtel, je sais pas comment décrire ça, mais ce serait aussi une résidence jeune, mais il n'y a pas que des jeunes. Mais du coup, c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses de vivre seul à Saint-Nazaire. Moi, ça m'a apporté l'autonomie, et à vivre seul, et à vivre comme un adulte. J'en suis fier. Je suis grand maintenant.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose ?
Peut-être plus d'un regard un peu plus global sur les élèves, et encore une fois, plein de soutien au lycée autogéré. Nous, on n'est pas autant attaqués en ce moment, mais c'est peu dire qu'on n'est pas soutenus. Par exemple, on a aussi un lycée de rattachement administratif qui dispose d'un internat avec des places vides. Nos élèves n'ont pas accès, n'ont pas le droit de s'inscrire dans cet internat. Je peux dérouler, hein, nos élèves n'ont pas accès à une infirmière scolaire ou un infirmier scolaire, nos élèves n'ont pas accès aux médecins scolaires, nos élèves n'ont pas le droit aux ordinateurs offerts à tous les élèves de seconde de la région Pays de la Loire. En revanche, quand on a une demande de dépense, il faut bien qu'elle soit validée par ces instances-là. Quand on a une demande de sortie, il faut bien qu'elle soit validée par ces instances-là. Donc voilà, je profite de cette question parce que c'est un vrai problème, l'hébergement de ces élèves qui viennent de loin. Et quand on débarque, qu'on a l'âge d'entrée en seconde dans une autre ville, qu'on n'a pas des adultes référents autour de nous et qu'il faut, en plus de gérer un nouvel établissement, de créer de nouvelles relations sociales, qu'il faut en plus apprendre à vivre seul ou en coloc, qu'il faut avoir déjà des parents qui ont les moyens de nous payer cette vie-là, apprendre à gérer un budget, des fois ça fait beaucoup.
Moi j'avais une autre question qui reprend un peu ce que tu viens de dire. Est-ce que vous avez pu subir en tant qu'enseignante des répressions, qu'elles soient des parents d'élèves, du rectorat, ce genre de choses? Et aussi du côté des étudiants, est-ce que vous avez pu répondre à des doutes venant de votre famille ou même de vous-même, peut-être avoir des doutes qui on peut s'élucider vers la fin?
Le lycée depuis, moi je suis depuis un peu plus de 20 ans, faut que je fasse attention parce que je deviens une historique. Clin d'œil au LAP. Nous on a vu petit à petit, nous on subit pas en tant que personne de répression, mais petit à petit on a vu nos espaces de liberté se restreindre, et notamment sur tout ce qui était voyage et sortie, quoi. Et aussi on a subi en 2019, auparavant on était 19 enseignants, et maintenant nous ne sommes plus que 17, quoi. Voilà. Et le rectorat ne nous aime pas beaucoup, n'est pas tellement considéré, mais c'est pas grave. Nous, ce qui est important, c'est ce qui se passe entre les élèves et nous. Ils ont pu dire des choses désobligeantes, comme dire qu'on était trop payé pour qu'on était payé très cher pour passer le balai. Parce que on n'a pas expliqué, mais donc il y a des ateliers le matin, il y a des activités l'après-midi, mais pour que tout ça puisse se passer, il y a un groupe qui fait la gestion de l'établissement pendant la quinzaine de l'atelier, en fait. Et à tour de rôle, on gère l'établissement.
Oui, donc moi je voulais bien un peu parler de la gestion parce que c'est quelque chose qui me marque beaucoup et je pense que ça marque pas mal le lycée parce que c'est un peu tout le principe. C'est que du coup on est répartis dans 5 gestions. Avant il y en avait 6, elle a été déj, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Ah oui, c'est ça, voilà. Bref, et du coup il y a les gestions, donc c'est en même temps que les ateliers durent 2 semaines, les gestions c'est pareil, ça dure 2 semaines ou pendant 2 semaines tu vas faire la gestion, donc tu vas pouvoir choisir entre 3 catégories. Donc il y a la casbah, c'est la cafétéria, il y a la cuisine où tu vas faire à manger et tu vas nettoyer après, et il y a aussi le secrétariat, donc ça gère tout l'administratif du lycée, donc les mails, le budget, enfin tout ça. Et du coup la gestion c'est très fatigant mais très cool à la fois, et c'est quelque chose de vraiment, enfin j'adore la gestion personnellement, et c'est quelque chose qui est vraiment cool au lycée, je trouve. Et voilà.
Voilà. Sachant qu'on doit y apprendre beaucoup de choses dans cette gestion.
Bah oui, effectivement, parce que du coup, bah, par exemple, il y a des élèves, enfin, la plupart, on sait faire à manger, mais par exemple, enfin, je sais pas trop comment dire, mais quand t'es de cuisine, le matin, il y a un petit groupe qui va aller faire des courses. On revient, faut qu'on fasse le budget, faut qu'on dise qu'est-ce qu'on va faire à manger, faut prévoir combien d'assiettes en fait on va faire, parce que bah faut s'inscrire, c'est payant aussi, c'est pas très cher, mais voilà, il y a plein de trucs à penser, il faut faire des calculs, en fait on en apprend beaucoup. Même j'ai jamais fait le secrétariat, mais au secrète je pense qu'on apprend pas mal de choses, parce qu'en fait tu dois gérer, c'est comme dans un lycée traditionnel. C'est les adultes qui vont faire tout ce qui est administratif, et ben en fait là c'est les élèves. Donc si t'appelles le lycée et que t'as envie de faire un entretien pour venir, c'est un élève qui va te répondre et qui va te dire alors tu fais comme ça, machin machin. Et du coup c'est hyper intéressant, parce que quand t'es de gestion, en fait t'en apprends tellement, même au niveau de la cafétéria, donc la casbah, t'as plein de trucs à faire et c'est hyper rempli, et voilà.
Vous voulez dire quelque chose, peut-être, non ?
Bah non, enfin, il a dit ce que je voulais
dire. Ça a été dit, ah ! Pas de chance. Oui, j'arrive. Je vais tâcher de passer par ici, il repassera par là, vous connaissez la chanson.
Oui, je voulais demander, en fait, dans quelle mesure il peut y avoir réellement autogestion là où il n'y a pas de production, même si, effectivement, vous produisez vos propres conditions d'existence, ce qui est déjà bien, et si, dans la société moderne, la production n'est pas entièrement matérielle et que vous produisez vos connaissances aussi. Mais ça reste quand même une question centrale et qui me paraît pouvoir éventuellement expliquer certains dysfonctionnements.
C'était la question à 1 000 euros, ça.
Ouais, c'est ça.
Alors,
ben, je ne sais pas si. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, moi, je ne fais pas d'autogestion. Donc, par contre, je vise dans ma société idéale une société en autogestion. Et donc là, actuellement, j'essaie de trouver des endroits, des niches dans la société. Le lycée en est une pour moi actuellement. Moi, voilà, je l'ai dit, je viens de l'éducation populaire. Moi, je défends une éducation globale. Je fais des colonies de vacances l'été. Je fais de la formation parce que je pense que c'est aussi en accompagnant les adultes à prendre en compte les paroles des enfants et à penser les enfants comme des êtres humains que c'est ça qu'on va définir et construire pour demain. Donc voilà, je sais pas si on se place du point de vue marxiste au niveau de la conception de la production et qu'on pense cette société-là. En tout cas, là, on est dans un espace de construction de la société de demain, un des espaces de construction de la société de demain. Moi, je vise une société en autogestion et donc j'essaie de construire au quotidien les moyens de cette société de demain. Je sais pas si ça répond à la question, mais...
Donc, je l'avais pas vu. Excuse-moi, j'arrive.
Non, c'est juste une précision. Quand vous avez parlé des ateliers, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il y avait humanité et langage. Du coup, pourquoi avoir différencié ou qu'est-ce que...
Alors, il y a nature, humanité et langage.
Oui, humanité, langage, je ne comprends pas.
C'est marqué sur la feuille. Alors, les départements nature, c'est par exemple si on veut...
Pardon. Si on veut faire un atelier, par exemple, je sais pas, une balade en forêt pour faire, je sais pas, un atelier sur les fleurs, sur les plantes, sur les arbres, etc. Tout ce qui va toucher autour de la nature, autour de l'environnement, ça va être plus dans la nature, dans tout ce qui va toucher humanité. Par exemple, je sais pas, humanité dans un. Je lis la feuille. Ouais, c'est tout ce qui va être histoire, philo, ou tout ce qui va toucher la sociologie, etc. Et le langage, ça peut être expression artistique, donc ça peut être le langage du corps, ça peut aussi être le langage, je sais pas, d'une autre langue. Il peut y avoir des ateliers anglais, des ateliers allemands, espagnols, etc. D'ailleurs, il y en a eu un très bon la semaine dernière. Je pense que j'ai fait le tour. Oui.
Voilà, c'est plus clair.
Non.
Ah, rapproche-toi, Pascal, parce que
je reviens sur une des spécificités du fonctionnement du lycée expérimental, qui est sur le mode de prise de décision en horizontale, et c'est toujours une question, à mon avis, fondamentale par rapport à la question du pouvoir qui a été... Et c'est vrai que c'est une autre différence, puisque tu parlais des différences. Au lycée autogéré, on avait plutôt l'habitude de dire que l'égalité, elle se fait sur une personne, une voix, et arriver à la prise de décision par vote. Au lycée expérimental, vous êtes avec le consensus, et ça m'intéresse d'entendre pourquoi c'est toujours aussi essentiel, comment ça fonctionne, le temps que ça prend, et puis que... Vous en disiez quelques mots de cette défense de ce principe et de pourquoi il est important pour vous.
Alors, comment ça fonctionne, le système de décision au lycée? En fait, ça va dépendre déjà de la nature de la demande. Donc, généralement, la chose la plus haute, c'est ce qu'on appelle le CE. C'est conseil d'établissement. Donc, c'est... le conseil d'établissement, par exemple, quand on a une demande de voyage ou de gros financement pour un voyage ou pour autre, on va demander au CE, qui est, alors le CE est formé à la fois de MEU et d'élèves.
C'est quoi les MEU?
Alors les MEU, membres de l'équipe éducative, parce qu'on ne dit pas prof chez nous, c'est tabou. Et oui. Et du coup, le CE se forme du coup de MEU et d'élèves qui se proposent à chaque fin de période, il y a de nouveaux élèves qui se proposent, de nouveaux MEU qui se proposent pour former ce conseil d'établissement. Et il y a pas que les décisions de thunes, il y a aussi les décisions, par exemple si on veut changer des règles ou on veut instaurer une règle dans le lycée, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, on va demander ça au CE, etc. S'il y a des sujets graves, etc. Par exemple, si on doit parler, par exemple, malheureusement, d'une exclusion d'un élève pour fait grave ou autre, ou une demande de désinscription, on va en faire part au CE aussi. Mais aussi, on peut faire part d'une demande de décision au groupe de gestion. Donc à la gestion qui sera mise en place au moment où on fera la décision. Ça peut être des petites dépenses, par exemple, je sais pas moi, si on veut organiser un apéro, ce qui se fait souvent d'ailleurs. Sans alcool. Hein, parce que, voilà. Quoi? Donc sans alcool, on va avoir besoin d'argent, donc on va devoir demander à la gestion. Ça peut être aussi, je sais pas quoi d'autre comme donner comme exemple.
Par exemple, juste si, par exemple, moi j'ai une amie au LAP qui est venue pendant une semaine pendant ma gestion, et du coup j'étais de gestion, donc c'était un peu plus simple, mais j'ai demandé à ma gestion, est-ce que mon amie peut venir faire la gestion avec nous, par exemple. Et la gestion, elle a accepté, du coup mon amie, elle est venue et elle a fait la gestion avec moi. Et par exemple, c'est si on veut inviter une amie ou un ami qui n'est pas du lycée, c'est bien de prévenir la gestion, parce que sinon tu te fais un peu engueuler, enfin pas vraiment, mais voilà. Donc ça peut vraiment être des petits trucs vraiment tout minuscules, ou alors, enfin, vraiment n'importe quoi. Genre, est-ce que je peux ouvrir la brico juste pour aller bricoler? Si ça tombe pas ce brico, bah tu vas demander à la gestion. Tu fais ouais, bon bah je vais aller bricoler, voilà. Donc c'est vraiment, ça peut être tout n'importe quoi la gestion entre guillemets, et voilà.
Donc la gestion, elle est plutôt sur les décisions du quotidien, et le conseil d'établissement, il va avoir une vision un petit peu plus large. Mais le conseil d'établissement, c'est pas juste 8 personnes qui prennent les décisions, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le conseil d'établissement, il va demander à l'ensemble de la communauté éducative, élèves et membres de l'équipe éducative, en fait, il va problématiser à chaque fois les demandes. Et il va demander à l'ensemble de la communauté éducative ce que chacun, chacune en pense. Et on va, en fait, les délégués du conseil d'établissement vont récolter tous les avis, et même les avis minoritaires, et vont tenter, à partir de ça, de prendre une décision. Voilà. Et quand ce n'est pas possible, ça retourne dans l'instance qu'on appelle collège, où là, il y a les élèves d'un côté et les membres de l'équipe éducative de l'autre qui donnent leurs avis par rapport aux questions posées.
C'est pas une question vraiment, mais ça tourne autour de ce qui s'est dit à la fois par le lycée expérimental de Saint-Nazaire et à la fois par le LAP. Il y a une question qui revient dans les deux cas, c'est la question de l'absentéisme. Et je dis ça parce que on a l'impression, enfin, comme ça, vu de l'extérieur, moi je suis de Vitruve à l'école, alors évidemment, l'école primaire, il y a obligation, bon, évidemment, d'aller à l'école, les parents font obligation à leurs enfants, et nous, on est contents qu'ils soient là, et c'est plus facile. Mais là, on dirait qu'il y a comme une espèce de manque d'adhésion d'une partie des inscrits ou des volontaires. Sont-ils volontaires? Enfin, il y a toute une question pour moi tourne autour, parce que, je dis ça parce qu'à Vitruve, on a eu quelques soucis d'attaque, il y en a encore, parce qu'actuellement, ils sont un peu en danger aussi, et c'était systématiquement aussi sur la fréquentation scolaire des enfants. Et là, on dirait que ce problème n'est jamais vraiment abordé dans les groupes autogestionnaires ou presque gestionnaires ou digestionnaires, moi, comme j'ai dit pour Vitruve. Et voilà. Je pense qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est possible d'aborder le problème de cet absentéisme? Qu'est-ce qu'il représente, en fait?
Avant de répondre, peut-être une dernière question et vous répondez globalement.
Bonjour. J'avais une question un peu plus globale. Pas forcément sur Saint-Nazaire, mais sur tous les lycées expérimentaux. Est-ce que vous communiquez entre les quatre lycées ou pas? Est-ce que vous avez une sorte de comité où vous réunissez pour faire des choix globaux entre tous les lycées, ou que ce soit politique ou même une notion d'éducative ou des ateliers, etc. Voilà, c'est plus dans ce sens-là.
Voilà, vous répondez, puis après on va passer à d'autres thèmes.
Alors du coup, sur la question de l'absentéisme, donc c'est un problème. Alors moi, ça fait qu'un an, mais c'est un problème qui est là depuis les débuts du lycée expérimental. C'est un problème récurrent parce que c'est pas comme au LAP avant, où c'était en libre fréquentation. Là, c'est vraiment quand on s'inscrit au lycée, on s'engage à venir et à faire partie de la communauté, donc à faire nos gestions, à être sur les temps institutionnels, à avoir un projet, en fait. Et en fait, il y a beaucoup plus là, cette année. Ça a créé beaucoup d'embrouilles entre gestion, entre les élèves et même entre les MEU sur l'absentéisme, parce qu'il y a... En fait, c'est un lycée qui offre beaucoup de liberté, et il y en a certains qui prennent cet excès de liberté et qui ne viennent pas. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a aussi au lycée des élèves qui souffrent de problèmes très variés. Et enfin, le lycée expérimental, c'est pas vraiment. Enfin, les MEU, par exemple, ou même les élèves ne sont pas formés à travailler sur ces problèmes-là. Même si malheureusement, on n'a pas accès à une infirmière, à une aide psychologique en fait, de la part de lycée de rattachement. Du coup, ça crée beaucoup de problèmes, à la fois dans les gestions, à la fois dans les cours, à la fois dans les ateliers. Il y a beaucoup de gestion. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la gestion numéro 1 qui a dû fermer les grilles du lycée parce qu'il y avait tellement peu d'élèves en fait en gestion que en fait ils ont préféré fermer les grilles du lycée que pour protester. En fait, c'était surtout un coup fort et ça a aussi créé des problèmes à la suite. Et il y a beaucoup de gestions aussi, par exemple la G4, qui sont 7 à chaque fois, qui doivent se faire la cuisine, le secrétariat, le ménage, le café à chaque pause. C'est une charge mentale qu'on a et qu'on a moins quand il y a beaucoup de personnes. Mais quand il y a très peu de personnes, bah c'est fatigant en fait. C'est qu'on fait le boulot de 2 voire à 3 personnes. Alors moi, c'est pas mon cas parce que moi, dans ma gestion, on est quand même pas mal et je suis content parce que c'est quand même une chance. Voilà. Je vais en rajouter.
Bah juste pour revenir un peu sur l'absentéisme. Moi, je pense, de mon point de vue, l'absentéisme. Il y a beaucoup d'élèves, je pense, qui prennent un peu le fait qu'en gros, les ateliers, on choisit quel atelier dans lequel on va, les activités l'après-midi, on choisit quelle activité on va, notre emploi du temps, on le construit nous-mêmes. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui prennent ça un peu comme « Ah ben, je suis pas obligé d'y aller alors ». Mais en fait, tu t'engages sur des périodes. Par exemple, moi, j'ai déjà décidé pendant 2 semaines de ne pas prendre d'atelier pour me reposer le matin. Et ben, j'ai pas pris d'atelier et je me suis reposée, c'est trop cool. Mais en fait, quand tu t'engages le matin au début des 2 semaines, ben, en fait, le mieux, c'est de venir à l'atelier. Sinon, tu prends pas d'atelier et tu te reposes. Et en activité, c'est à peu près pareil. Sur les périodes, tu t'engages, par exemple, à venir, je sais pas, en philo chaque mardi. Et ben, ce serait cool que t'ailles chaque mardi en philo. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de gens comme... Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. C'est que vraiment, les gens prennent ça comme... je suis pas obligée d'y aller parce que... Ben voilà, en fait, je sais pas trop comment expliquer mieux, mais je le vois beaucoup comme ça.
Moi, je veux bien ajouter aussi sur l'absentéisme, et puis peut-être je te laisserai parler des liens avec les autres établissements, puisque tu les connais mieux que moi. Je trouve ça assez juste ce que vous dites. Je me disais, l'absentéisme, c'est un vrai problème, c'est un problème qu'on retrouve dans les archives du lycée depuis sa création. Et je crois que c'est un problème qu'on regarde en face. Ça veut pas dire qu'on trouve les solutions, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on mette sous le tapis. Et je pense d'ailleurs des fois on le regarde en face et on le traite pas de la bonne manière. Je pense qu'il est arrivé à toute personne en acte éducatif d'engueuler les présents pour les absents, par exemple. Je pense dans les conneries qu'on fait régulièrement. Oui. Je me dis, il y a plusieurs choses. Je vois, si j'étais optimiste et je regardais le verre à moitié plein, enfin, je sais pas si c'est de l'optimisme global sur la société, mais je me dis, on accueille énormément d'élèves qui ont eu des parcours fracassés par l'institution scolaire. De fait, il y a beaucoup d'absentéisme, mais quand on accueille énormément d'élèves qui ont parfois eu des phobies scolaires de 3 ans, 4 ans, est-ce que c'est pas déjà bien? Donc, ça serait une première manière de le regarder. Un deuxième point que je voyais là-dessus, c'était ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure. Quand on a 14 ans, qu'on se retrouve à devoir gérer, en plus de ses apprentissages scolaires et parfois de son retour à l'école, son appartement, son ménage, son budget, les sorties avec les copains-copines, etc., etc., est-ce que c'est pas un peu trop? Et que du coup, peut-être que si on était un peu plus soutenu, notamment avec des accès à un internat, ça réduirait pas les problématiques d'absentéisme. Troisième point, en lien un peu avec les deux, hein, à quel point c'est de notre faute, notre système qui est dysfonctionnel, et à quel point on a des manques carrément de la société, quand on sait que la santé mentale des jeunes est en chute libre, quand on a d'énormes soucis, et donc là on a énormément d'absentéisme, mais aussi parce qu'on a des jeunes, et pas que des jeunes au lycée expérimental, des jeunes globalement qui vont mal et donc qui ne sont pas là parce qu'ils sont au fond de leur lit, parce qu'ils ont des gros soucis psy, etc. Voilà, c'est le troisième point que je voyais là-dessus. Et le dernier, hein, je remets un coup dans la fourmilière là-dessus, mais c'est vrai que c'est c'est un problème qui est systémique chez nous. Je pense qu'on n'en a pas tiré toutes les ficelles, qu'on n'a pas eu le temps de l'analyser et vraiment dans les détails. Mais encore une fois, quand on passe notre temps à lutter pour exister, eh ben ça nous laisse pas le temps de traiter de ces vrais problèmes-là, et c'est dommage.
Voilà, une réponse sur la coordination.
Alors, nous on est assez proche du LAP, voilà, un peu moins des deux autres de 82 qui se sont un peu plus normalisés. Et, qu'ont abandonné un peu le côté politique de ces lycées expérimentaux. Et on a une coordination. Au sein, tous les deux ans, on mettait en place une semaine internationale parce que on n'est pas seulement en lien avec les lycées français, mais il y a aussi des lycées expérimentaux un peu partout en Europe, et donc on est en lien. Voilà. À noter quand même que seuls les lycées français sont publics. Voilà. Et nous, au lycée aussi, depuis quelques années. On fait partie de Convergence, donc là c'est un peu plus large que juste les lycées expérimentaux. C'est tous les mouvements d'éducation nouvelle, ICEM, CMEA, GEFN, CRAP, qui se sont regroupés au sein de Convergence, et on vous invite tous parce que on fait partie de l'équipe d'animation. On vous invite tous à la Biennale internationale de l'éducation nouvelle qui aura lieu donc à la Toussaint 2024 à Nantes.
Merci. Donc il faudra nous rappeler tout ça, qu'on puisse le diffuser. On va passer, je crois, un tout petit moment de musique, et on va demander aux militants et militantes de la CNT 93 de se rapprocher de la table, sachant qu'on va aborder un thème tout à fait important, pédagogie et anarchie. Vous voyez tout le programme.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que les vieillards, tristes en larmes.